Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.
Cité Addict, nous sommes dans les troubles comportementaux et nous allons parler aujourd'hui, Sophie Nicole, bonjour.
Bonjour.
De la codépendance, vous êtes directrice de la clinique Belmont, également psychologue. La codépendance, de quoi s'agit-il ?
Alors c'est le fait d'utiliser l'autre comme une substance en fait. Finalement, je n'existe que parce que je peux m'occuper de toi. Alors finalement, tout tourne autour de ça. Je suis convaincue, tu as besoin de moi, je vais te sauver, je vais t'aider, je vais prendre soin de toi. Et finalement, je ne veux qu'une seule chose, c'est que tu sois libre et autonome. Et la pire chose qui peut m'arriver, c'est que tu sois libre et autonome.
Un exemple peut-être concret avec une maman qui veut s'occuper de ses enfants ?
Alors effectivement, tout à fait. Les mamans qui sont très très engagées pour leurs enfants, qui les élèvent avec passion, qui se donnent et qui n'existent qu'à travers cette position en fait, cette reconnaissance-là. Et puis finalement, elles n'ont qu'une seule envie, c'est que leur enfant soit autonome. Et puis quand les enfants grandissent et puis commencent à demander cette autonomie, à vouloir la vivre, et ben la maman commence à être très en difficulté. Et puis il va y avoir une sorte de double position. Bien sûr, fais ce que tu veux, mais attends, fais-le comme ça, ça serait mieux. Et puis le grand drame pour ces mamans, c'est quand les enfants s'en vont du nid. Et puis finalement, tout d'un coup, elles ont le sentiment de ne plus être rien, de ne plus être personne. Et puis elles peuvent sombrer dans des dépressions importantes. Il faut savoir que les codépendants, quand ils perdent leur dépendant, 10% d'entre eux peuvent se suicider. C'est quelque chose d'assez dramatique. Donc finalement, inconsciemment, l'autre le sent et puis ne va pas s'autoriser à devenir complètement autonome parce qu'il sent en fait la détresse de son codépendant.
Cité Addict, nous parlons aujourd'hui de la codépendance, également avec nous autour de la table, Basile Varelzis, médecin addictologue. Bonjour docteur.
Bonjour.
La codépendance, donc on le voit, ça touche finalement pas mal de cas différents. Est-ce qu'on arrive à faire un distinguo peut-être avec la dépendance affective dont nous avons déjà parlé il y a une quinzaine de jours ?
Bien sûr, la dépendance affective c'est quelque chose qui touche plutôt la vie de couple, tandis que la codépendance est beaucoup plus grande. Ça peut exister au sein d'un couple, comme ça peut exister entre un parent et ses enfants, comme ça peut exister entre amis. Classiquement, la codépendance était décrite chez des femmes qui étaient mariées avec des hommes qui étaient alcooliques aux États-Unis dans les années 50. Et là, dans ces situations-là, ces femmes-là ne buvaient pas, n'avaient pas d'autres addictions. Elles passaient tout leur temps à se plaindre que leur mari s'alcoolisait, était violent, c'était terrible, blablabla. Mais elles n'arrivaient pas à le quitter. Mais elles continuaient à se plaindre. Finalement, l'homme, quand il décidait d'arrêter de boire, il commençait son travail de rétablissement. Et tout d'un coup, on se rend compte, bah tiens, ces femmes-là disaient, ah bah tiens chérie, tu sais, j'ai invité les voisins, j'ai acheté 2 bouteilles de vin. Ou bien, ah chérie, j'ai l'impression que t'es un petit peu irritée. Voilà, prends un verre, voilà, je t'ai laissé une petite bouteille de côté, comme ça tu peux te calmer. Donc elles vont tout faire pour saboter le rétablissement de l'autre. Donc il y a cette espèce de, je suis pas suffisamment bien pour être avec quelqu'un qui est normal, donc la seule personne qui pourrait vouloir être avec moi, c'est quelqu'un qui va mal. Hein? Il y a cette notion-là dans la codépendance. Donc, il y a une faible estime de soi. Il y a le besoin de contrôler l'autre, d'avoir une emprise sur l'autre pour ne pas le perdre. Donc, quelque part, il y a beaucoup de violence aussi dans ces relations. Hein? Même si, à l'extérieur, on les voit comme des gens qui sont très aidants, qui essaient de faire du bien pour l'autre, qui font beaucoup de soucis pour l'autre. Mais au fond, quand on regarde vraiment avec la loupe, on voit qu'il y a beaucoup de manque de respect, d'envahissement, de violence, de mainmise, de contrôle, de besoin de contrôler l'autre pour ne pas le perdre.
Et finalement, c'est presque une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui souffrent d'addiction, Sophie Nicole, parce qu'ils peuvent trouver un partenaire normal qui va les accepter comme ils sont.
Alors effectivement, ça se passe beaucoup dans le milieu de personnes qui sont dépendantes à des substances. Et puis effectivement, la problématique, c'est que le codépendant va complètement s'oublier en fait. Il n'existe que parce qu'il est le sauveur de l'autre. Donc il n'hésitera pas à se mettre en danger, à prendre des risques, à s'oublier complètement.
Alors comment on arrive à le soigner lui ? Parce que a priori, c'est plutôt son conjoint, son compagnon, sa compagne qui souffre d'un trouble, qui a priori devrait plutôt se faire soigner, mais non, c'est pas toujours le cas. Comment on fait le distinguo, Basile Varelzis ?
Alors chez le codépendant, on va travailler avec cette personne-là par rapport aux limites, par rapport à l'estime de soi notamment. L'aider à voir qu'en fait, elle a une valeur, elle a sa place dans le monde, qu'elle est appréciée, elle a des atouts, qu'elle est pas, c'est pas un nul. Okay. Et c'est facile à dire, mais ça prend tout un travail.
Mais comment à la base cette personne peut être amenée à devoir justement consulter pour prendre conscience peut-être que c'est elle aussi qui souffre ?
Souvent, c'est parce que ces gens-là, ils vont très très mal. Ils vont passer tout leur temps à ruminer. à tourner en rond, à se faire des soucis pour l'autre, au point où ils se sentent totalement oubliés, ils n'arrivent plus à aller au travail, ils n'arrivent plus à avoir des amis, parce que les amis les ont tous écartés, parce qu'ils en ont marre d'entendre toujours le même discours qui tourne en rond. Donc la personne est assez isolée et elle a une grande souffrance. Mais elle ne se rend pas compte au début. Souvent, quand elle vient consulter, elle va dire « Je viens parce que mon mari, parce que mon copain, parce que mon fils est toxico. » Hein? C'est souvent ça que je reçois au cabinet. Hein? Et puis par la suite, j'aide la personne à voir « Oui, d'accord, oui, cette autre personne est toxico, mais il n'est pas là. Donc nous, on peut travailler avec vous et par rapport à votre souffrance. Et qu'est-ce qui fait que vous passez tout votre temps à penser à lui ?» Et donc là, on va commencer à travailler sur les limites, sur l'aider à commencer à se focaliser sur ses problématiques à elle, hein, donc sa vie à elle, et faire la part des choses, que l'autre, il a le droit d'avoir sa vie, et qu'il peut se faire soigner s'il a besoin, et s'il a envie, mais que nous, on ne peut pas contrôler la vie d'une autre personne.
On va écouter le témoignage de Marine, 31 ans.
Pendant les 30 premières années, en fait, j'ai tout le temps eu des relations amoureuses dans lesquelles la personne, le conjoint était en difficulté. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un échec, moi je me sentais super coupable. Et c'est justement en faisant un travail sur moi que je me suis rendu compte qu'à chaque fois je me mettais en danger en fait. Je prends un peu les initiatives pour la personne. Quand je vois qu'elle stagne ou qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, j'essaie de faire les choses à sa place. Et du coup, ça peut marcher un moment, mais après, l'autre personne s'aperçoit qu'elle fait l'effort finalement pas pour elle, mais pour moi. Et au bout d'un moment, ça tient pas longtemps. Et puis après, quand il y a une déception, du coup, je prends tout sur moi. Je me sens coupable. Très tôt dans mon enfance, j'ai été abandonnée de manière affective par mes parents et après de manière physique plus tard. Et étant donné que mes parents et personne n'était là pour m'aider, je me suis dit que j'étais pas sur terre pour qu'on m'aide, mais que j'étais là pour aider les autres de par mon expérience variée au niveau des maltraitances que j'ai reçues.
Et qu'est-ce qui se passe alors quand l'autre commence à aller bien ?
Quand l'autre commence à aller bien, je me sens bien parce que je me dis bon, j'arrive à l'aider, j'arrive à lui montrer qu'est-ce que c'est que la vraie vie. Et du coup, et c'est comme ça finalement, je suis dépendante de son état. Disons que s'il va mal, je me sens coupable, alors je sens que j'aurais pu faire quelque chose ou que je devrais encore faire quelque chose et puis je laisse pas tomber. Si je m'aperçois que la personne qui est avec moi justement chute ou ne s'en sort pas, moi je tombe vraiment en dépression. J'ai un sentiment de culpabilité mais tel que j'ai besoin de prendre des drogues pour anesthésier ça parce que c'est insupportable pour moi. C'est plus insupportable que mon propre échec à moi en fait.
Si tu rencontrais quelqu'un qui vit la même réalité que toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil ?
J'aurais envie de lui dire qu'il faut vraiment penser à soi parce que personne d'autre pourra faire les choses pour soi-même. Et c'est comme ça que justement, en pensant à soi, puis en étant de plus en plus fort, qu'on peut un jour pouvoir prétendre aider une personne, mais pas l'inverse. C'est assez compliqué parce que finalement, c'est ma personnalité sur laquelle je me suis construite depuis des années. Donc c'est vrai que je dois à chaque fois me forcer à penser à moi. Mais il y a des moments où j'oublie de faire le pilotage automatique, on va dire, de mon comportement, et puis je tombe à nouveau dans l'envie d'aider l'autre, et puis il faut que je souffre pour m'en rendre compte à nouveau, en fait. Chaque fois que je prends l'échec de l'autre comme mon propre échec ou comme une culpabilité, c'est à ce moment-là que ça m'envahit, puis que je me rends compte que finalement, ça ne m'appartient pas.
Le témoignage de Marine, 31 ans, Sophie Nicole, elle a conscience, elle aussi, encore une fois, qu'elle est dans une situation un petit peu délicate. Finalement, le mieux, c'est quoi ? C'est de la soigner, elle, ou de soigner son partenaire ?
Alors effectivement, il faut soigner la personne qui est là, ça c'est ça qui est important. Ce qui est intéressant pour Marine, c'est qu'elle réalise finalement à quel point ça la met en danger elle-même, puisqu'elle l'explique bien, à force de vouloir sauver l'autre, à des moments donnés, elle-même n'en peut plus, donc elle-même va se mettre à prendre des substances pour essayer de calmer son mal-être et pour pouvoir continuer à sauver l'autre. Son objectif absolu, c'est sauver l'autre. Et puis, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire ? Est-ce que j'aurais dû faire autrement ? Et elle s'oublie complètement, elle est complètement concentrée sur l'autre, au point d'aller prendre des risques énormes, de complètement s'oublier pour sauver l'autre.
Et là, encore une fois, quel est l'élément déclenchant, docteur Verelzis, parce qu'on peut aimer quelqu'un d'un amour très fort, très, très sain, très naturel, et puis à quel moment on se dit, tiens, peut-être que là, j'en fais un peu trop ?
pas, c'est pas une question d'amour. Hein. Quand on aime quelqu'un, on se rend compte que l'autre, il a sa vie. Oui, on tient à eux, on les aime, mais il a sa vie, moi j'ai la mienne. Dans la codépendance, on oublie que l'autre a le droit d'avoir sa vie. C'est comme s'il n'y a que le « nous », de nouveau. Si l'autre personne fait quelque chose, la codépendante va avoir l'impression que c'est elle qui l'a fait. Donc, elle essaye de contrôler les comportements d'une autre personne, mais qu'elle a aucun pouvoir. On ne peut pas contrôler le comportement d'une autre personne.
Et alors là, ça peut aller très très loin, encore une fois, Sophie Nicole.
Bah oui, effectivement, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se met à faire à la place de l'autre. En même temps, on reproche à l'autre d'avoir pas fait. Du coup, quand l'autre fait, on lui explique que c'est bien ce qu'il a fait, mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Du coup, l'autre se dit, bon, bah alors moi, j'arrête de faire, puisque quand je fais, ça va pas, mais quand je fais pas, ça va pas. Et puis, du coup, le codépendant se sent extrêmement mal, donc va essayer
d'arrondir les angles,
et puis ne peut pas s'empêcher d'intervenir en permanence. Hein. C'est ça, le souci, c'est qu'il n'y a pas la limite, et puis il intervient, il envahit la sphère de l'autre en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour sa sphère personnelle, elle n'existe pas. Le moi n'existe pas, et puis finalement, je n'existe que parce que je peux m'occuper de toi, parce que je me concentre sur toi, et puis moi, je ne veux qu'une seule chose, c'est que tu sois heureux, que tu sois bien. C'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est de te sentir bien. C'est ça qui fait que je me sens utile, que je me sens accompli. C'est parce que je suis là pour t'aider et tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc, le souci, c'est que dans la société, c'est souvent extrêmement bien vu. Le problème, c'est que c'est invivable, absolument invivable. Pour les deux parties, c'est invivable.
Parce qu'on en vient dans une période d'étouffement aussi, un petit peu.
Exactement.
Nous traitions aujourd'hui de la codépendance. Merci à Sophie Nicole, directrice de la clinique Belmont et également psychologue. Merci à Basile Varelzis, médecin addictologue. Vous retrouvez également cette émission sur notre site internet www.radiocité.ch. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions de manière anonyme sur la page de l'émission Cité Addict. Dans un instant, le flash info de Cléa Favre à la semaine prochaine, 7h33, mercredi.
Cité Addict.